Les étudiantes et étudiants relais égalité s'invitent dans l'apérophonie.
La libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière.
I will not be lectured about sexism and misogyny by this
man. Que l'aborto sea legal, seguro y gratuito.
Des émissions qui parlent de lutte contre les violences et la discrimination à l'université et en dehors sur Radio Campus.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. L'émission d'aujourd'hui est spéciale car le générique, comme vous avez pu l'entendre, est différent et que je la co-anime avec Juliette, une des étudiantes du relais égalité de l'université Grenoble-Alpes. Et aujourd'hui en invité, nous sommes avec Eva Thomas, qui est la fondatrice de l'association SOS Inceste pour Revivre, Cécile Desmoulins, qui est l'actuelle présidente de cette association, et également Zoé Fromheim. Tu travailles aujourd'hui dans la communication et donc tu as été victime dans ta jeunesse d'inceste. Et donc je laisse la parole à Juliette.
Merci Ella et bonjour à vous trois, enfin bonsoir et merci d'être présente. Du coup aujourd'hui on va vous parler d'un sujet un petit peu spécial et pas très réjouissant mais dont il faut parler, donc qui est celui de l'inceste. Et donc pour revenir un peu sur les chiffres qu'on a tirés d'un rapport de la CIVIS, donc de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 81% des violences sexuelles sur enfants sont incestueuses et un enfant sur 10 est victime d'inceste, donc c'est-à-dire réalisé par un membre de sa famille. Le plus souvent, les agresseurs de ces violences sexuelles sont souvent les pères, à 27%, mais il y a aussi les frères, les oncles ou encore les grands-pères. Et en moyenne, lorsque les violences sexuelles sont incestueuses, les victimes ont 7 ans et demi au moment des premiers passages à l'acte par l'agresseur. Les enfants victimes développent très souvent, donc dans 9 cas sur 10, des troubles associés au psychotraumatisme ou des troubles de stress post-traumatique. Et selon la commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance, les victimes, ça peut réduire jusqu'à 20 ans leur espérance de vie. Donc ces chiffres témoignent de l'ampleur de ce phénomène qui pourtant a été pendant longtemps invisibilisé. Toutefois, c'est un phénomène dont la médiatisation prend de l'ampleur grâce aux voix qui se lèvent, celles des victimes, mais aussi celles des associations et des politiques qui comprennent l'enjeu et la nécessité de prendre la parole.
Oui, et donc à ce propos, Eva, t'as fondé ton association SOS Inceste pour Revivre en 1985, donc qui est très ancienne. Alors, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment elle est née et quels ont été ses objectifs au départ ?
Alors, bonsoir. Oui, elle est née en 1985 et c'était une époque où on ne parlait jamais d'inceste. Ce mot-là n'était prononcé nulle part. On trouvait des façons de parler de violence intrafamiliale, tout ça, mais on ne disait jamais le mot. Donc la première chose, c'était de faire exister le mot pour qu'on puisse penser que ça existait dans la société. Et pour la créer, en fait, j'étais toute seule. Et c'est deux amis qui ont prêté leur nom pour que je crée une association, loi 1901, il faut être trois. Et en fait, j'avais déjà écrit Le viol du silence. Et à cette époque-là, je cherchais encore un éditeur. Et j'ai écrit ce livre parce que dans mon travail de rééducatrice en psychopédagogie, j'ai rencontré une petite fille de 6 ans qui était dans une famille d'accueil, mais qui allait le week-end chez son père, et son père l'a violée. Et elle m'a raconté ça avec ses mots d'enfant, et toute la terreur qui va avec. Et pour moi, qui avais été victime d'inceste, ça a été le déclic. Donc je lui ai dit que ce que son père faisait, c'était interdit, qu'on allait la protéger, etc. Comme elle était sous la protection de la sauvegarde de l'enfance, je suis allée à une réunion, j'ai demandé de rencontrer les responsables, et je me suis retrouvée devant les travailleurs sociaux, psy et tout ça. Et j'ai expliqué tout ce que la petite fille m'avait dit, sa terreur, etc. Moi, je la croyais, c'était évident qu'elle avait vécu ça. Et on m'a dit, mais enfin, vous n'y pensez pas. C'était en 1983. Les enfants mentent, on ne peut pas les croire, etc., etc. Et quand je suis ressortie de cette réunion, j'étais dans un état de colère vraiment énorme. Je me suis arrêtée dans un champ et j'ai hurlé. Et je crois que ça a été le cri qui m'a vraiment décidée. Je me suis dit à moi-même que j'allais écrire mon histoire et que j'allais mettre le temps qu'il fallait, mais que ce serait édité et que je parlerai de l'inceste et que je crée voilà, une association. Et voilà que ça commence à commencer. Mais ça a été compliqué parce que j'étais quand même très seulette à parler de ce problème-là, quoi.
Oui, c'est sûr, parce que c'est une association qui a été créée à un moment où le sujet était encore plus invisibilisé qu'aujourd'hui. Et donc, en 1994, à propos du nom de l'asso, de votre association, il a changé, c'est devenu, c'est passé de SOS Inceste à SOS Inceste pour revivre. Et donc, pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui a déclenché ce changement de nom?
Eh bien, parce que je pense que dans les associations, les groupes de parole qui nous permettent de comprendre qu'on avait toutes vécu finalement les mêmes chemins, les mêmes somatisations, les mêmes cauchemars. On avait réagi à un traumatisme de la même manière. Donc du coup, c'est très rassurant de voir qu'on réagit de la même façon. Donc, alors qu'on nous avait traité d'hystérique, de folle, de menteuse, etc. Tout ensemble, on a décidé que non. On n'était pas tout ça, qu'on était juste des personnes qui avaient réagi à un traumatisme, le même traumatisme, et qu'on était normal. Et à partir de ce moment-là, en fait, on est de victime, on devient combattante. Et quand on devient combattante, on se met à revivre. Et donc, pour revivre, c'est exactement ça. Le combat, c'est ce qui vous rend vivant et ce qui vous rend votre pouvoir sur votre existence.
Une très belle histoire autour de ce nom. Et au départ, je pense que vous étiez vraiment seule dans ce combat. Même au niveau législatif, il y avait un énorme vide. Et c'est qu'en 2010 qu'il y a une loi, la loi du 8 février, qui a été inscrite. Donc, qui inscrit l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal. Et donc, qui vise à améliorer la détection et la prise en charge des victimes. Alors, est-ce que cette loi de 2010, elle a été un aboutissement pour votre association? Est-ce que vous avez vu des différences?
Sauf qu'en 2011, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas le mot inceste dans le code pénal. Et même à ce moment-là, pour que ce soit vraiment compris comme un viol incestueux, il a fallu attendre 2016. Donc, c'est très récent. Donc, il y a eu une très longue bagarre. Au niveau de la justice, enfin, la loi a évolué après que la société ait vraiment bougé. Et qui a fait bouger la société? Essentiellement les victimes qui ont écrit leur histoire, qui ont créé des associations, parce qu'il y a d'autres associations qui existaient. Hein. Il y avait l'Enfant Bleu, Ivy, enfin, d'autres associations de victimes. Et je pense que le fait que les victimes se mettent à parler dans les médias, etc. Ça a beaucoup aidé à ce qu'on prenne conscience de la réalité déjà, et surtout de la proportion. Mais il a fallu pratiquement attendre la Civise pour qu'on ait des statistiques qui sont tellement affolantes et que maintenant, on ne peut pas se dire que ça n'existe pas. C'est totalement systémique, c'est dans tous les milieux. Et voilà, c'est le long chemin qui a été fait.
Donc, merci. Comme vous avez dit, donc aujourd'hui, il y a une libération de la parole qui se fait. Et du coup, pour parler d'autres associations aujourd'hui, je vais poser une question à Cécile. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous venez en aide aux victimes et quels sont les dispositifs de prise en charge quand les personnes viennent vous voir?
Tout d'abord, on propose des permanences d'écoute téléphonique, pendant lesquelles les personnes peuvent nous appeler de manière anonyme et puis en étant toujours dans un lieu qu'elles ont choisi pour s'exprimer, parce que souvent les personnes appellent pour révéler des faits pour la première fois. Donc c'est un moment, c'est un passage très très difficile et très spécial pour les victimes. Donc elles peuvent nous appeler au téléphone, ça peut être anonyme si elles ont envie, et puis si à tout moment elles se sentent pas bien, elles raccrochent, voilà, c'est très sécurisant pour elles. Donc là, on est là en écoute, et puis ensuite les personnes peuvent rentrer dans des groupes de parole. Il y a deux groupes de parole qui sont modérés, hein. Un pour les personnes qui ont été directement victimes, et un autre pour leurs proches, puisque souvent, quand il y a révélation, souvent la révélation d'inceste, elle est tardive. C'est souvent, les personnes atteignent l'âge adulte quand elles arrivent enfin à révéler ce qu'elles ont vécu. Et quand il y a une révélation, forcément, c'est toute la famille qui est impactée. Et donc, il y a des proches qui ont aussi besoin d'accompagnement et d'un lieu où ils peuvent partager, parler, pour être plus à même d'accompagner la victime, hein, si c'est leur fille, leur fils, leur conjoint ou conjointe, frère ou sœur. Donc ça, c'est des choses qu'on propose, ces espaces de parole. On propose aussi des ateliers de yoga, en partenariat avec la Maison des Femmes de Grenoble. On propose aussi des ateliers de théâtre. Donc, on croit beaucoup à l'expression, à tout ce qui passe par le corps, en fait, pour guérir un crime qui s'est inscrit dans le corps. Et puis, tout ce qui est expression artistique, c'est des outils qu'on explore et que nos adhérentes et nos adhérents sont très contents, en fait, quand on leur met à disposition. L'année dernière, on a beaucoup travaillé avec Mélissa Zener, qui est metteuse en scène, qui a monté le spectacle La Nuit se lève, qui est passé à MC2, qui tourne dans toute la France maintenant. Et elle a travaillé avec nos adhérentes et nos adhérents pour se nourrir, en fait, de leur récit, de leur vécu, de leur énergie, pour écrire un spectacle qui soit le plus juste possible.
Et du coup, par rapport au groupe de parole que vous mettez en place, est-ce que, du coup, il y en a selon selon les victimes ou si c'est des membres de la famille et oui. Selon les âges ?
Nous, on travaille uniquement avec des personnes majeures. Okay. Hein, nous, on ne travaille pas avec les mineurs. D'accord. Parce que ça, c'est des institutions qui sont vraiment habilitées, spécialisées. On travaille avec des personnes adultes. Donc, il y a effectivement un groupe de parole pour les victimes et un autre groupe de parole pour les proches, parce que ce n'est pas les mêmes expériences vécues, c'est pas les mêmes. Il y a une communauté, il y a des choses qui peuvent se partager, mais c'est chacun dans son espace.
Et quels sont selon vous les bénéfices pour les victimes de parler dans un groupe de parole ?
Ça, faudrait leur demander. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui rentrent dans les groupes de parole, elles y sont relativement assidues. Elles y restent le temps qu'elles veulent. Nous, on part du principe que on va toujours être très prudente de ne jamais reproduire un système contraignant, parce que la contrainte, c'est ce qu'ont vécu les personnes victimes. Donc, les groupes de parole, ils sont à la disposition de nos adhérentes. Et adhérents d'ailleurs, on n'a pas besoin de réserver, on n'a pas besoin de s'excuser si on ne vient pas, on n'a pas besoin de prévenir. Voilà, on peut se décider 10 minutes avant, j'y vais pas, on fait comme on veut, on est libre. Et nous, on respecte totalement le souhait des gens. À ce moment-là, on peut parler, on peut juste écouter. C'est notre base en fait de travail, c'est ce respect total de la liberté des personnes. On est toujours, toujours très vigilante de ne jamais recréer un système contraignant dans lequel on impose une forme de contrainte, de contrôle, de domination. On fait très attention à ça. Et ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que les personnes nous disent que les moments des groupes de parole pour elles et pour eux, c'est des moments très précieux parce que c'est des moments où ils peuvent être dans leur vérité complètement sans se frustrer dans leurs paroles, dans leurs ressentis. Leur parole, elle est accueillie, elle est respectée. Et en fait, c'est très rare, pour parler d'un vécu de violence sexuelle dans l'enfance, de trouver un espace de parole aussi safe, aussi protecteur, aussi respectueux. Donc voilà, je crois que c'est ça.
Oui, et on voit bien donc qu'il y a tout un tas de dispositifs qui est mis en place pour pouvoir en parler, donc via des activités comme le théâtre ou le yoga, tu l'as mentionné, ou ces groupes de parole. Et donc, on voulait te demander, Zoé, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à... Est-ce qu'il y a des groupes de parole de ce type qui t'ont aidé à en parler? Ou toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a aidé à parler de ton passé, comme ça?
Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai une communauté sur les réseaux, notamment sur TikTok. Et j'ai commencé à en parler. Et il y a ma première vidéo qui a été assez virale. Et j'ai eu énormément de soutien et énormément de commentaires. Et après cette vidéo, j'ai eu une dizaine de DM sur message privé. Et c'était 10 victimes qui n'avaient pas encore parlé. Et j'ai aussi une personne de mon lycée à cette époque qui est venue me voir dans ma classe en me disant « Meuf, j'ai vu ta vidéo. Ça... » Bah, en fait, de voir que t'es pas seule et qu'en plus, il y a des gens qui en parlent sur les réseaux, ça fait énormément bouger les choses, je trouve. Enfin, ça fait libérer beaucoup de paroles. Et en fait, depuis, j'ai jamais arrêté. Je poste souvent des vidéos sur... actuellement, je poste sur les démarches de la justice, qui sont très longues. Et ça en aide beaucoup. Et parce qu'il y en a pas mal qui ne savent pas vraiment comment ça marche. Là, j'aimerais parler aussi des frais, combien ça coûte. Et en tant que victime... là, c'est ma mère, du coup, qui avance tous les frais. Et vraiment, elle a dépensé des milliers d'euros. Et justement, moi, je suis là pour en parler sur les réseaux. Et j'arrête pas. Oui, parce que ça libère de ouf. Puis même pour moi, en fait, de voir que je suis soutenue par tant de personnes... Ça, je trouve que ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne juste envie de continuer. Et j'écris pas mal dans mes notes et j'ai comme projet, ça fait déjà 3 ans que je l'ai en tête, mais j'aimerais vraiment écrire un livre. Mais il faut vraiment que je me penche dessus parce que c'est encore trop vague.
Oui, voilà. C'est sûr, mais déjà les réseaux sociaux, ça t'aide à te sentir moins seule. Et est-ce que tu as aussi pu aider des victimes? Est-ce que ça a créé peut-être des liens avec certaines personnes?
Notamment la personne qui est venue me voir au lycée, je lui avais expliqué. En fait, à ce moment-là, même moi, j'étais en plein dans mes démarches. J'en étais à ma deuxième plainte. Et du coup, juste, je lui ai dit, moi, en fait, je vais expliquer du coup ce qui a fait déjà que j'ai porté plainte. C'est ma maman, en fait. On avait arrêté de... Elle avait pris la décision qu'on arrête d'aller chez le bourreau, donc mon père. Et moi, en fait, du coup, ça m'a fait un déclic de fou. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que j'en parle. Enfin, ça fait des années que je vis ça. Ça se trouve, je ne suis pas seule. Et il y a eu un jour, ça faisait 2 semaines, 3 semaines que j'étais rentrée au lycée. J'étais en seconde. Et il y a eu un soir où je me suis fait du mal, je me suis automutilée. Et le lendemain, on avait prévu d'aller au lac, sauf que je l'ai appris que le lendemain. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Parce que forcément, elle allait le voir, et du coup, j'ai pris ma mère à part. Et déjà, ça lui a fait un choc de fou. Et le lendemain, après le lendemain, parce que c'était dimanche, et c'était la brigade des mineurs à cette époque, et c'était fermé. Et du coup, on allait porter plainte, et surtout ma mère, en fait, qui m'a poussée à le faire, parce que je pense que sinon, je l'aurais jamais fait, parce que j'avais trop peur. Vraiment, j'étais terrorisée. Déjà, l'idée de prendre la parole face à ma mère, j'étais terrorisée. Et surtout elle, en fait, qui m'a vraiment motivée à le faire. Puis je me suis dit, en fait, surtout, je sentais que j'étais pas seule. Et c'est surtout pour ça que j'ai vraiment fait ces démarches. Sinon, je pense que si j'avais été toute seule, je l'aurais jamais fait.
C'est très courageux, en tout cas. C'est très courageux de nous le dire aujourd'hui et de le raconter comme ça face à nous. Et très courageux de l'avoir fait. Et donc, en parlant de toute cette construction du silence qu'il y a autour de l'inceste, je vous laisse écouter un épisode du podcast de Charlotte Pudlowski, ou peut-être une nuit.
J'ai naïvement demandé pourquoi. Pourquoi chaque personne, autour de Dorothée Ducy, de Tal Peter Bromerx, de moi aussi, quand je me suis mise à amener le sujet dans les conversations, essaie de recréer du silence. J'ai demandé à Dorothée pourquoi personne ne veut en entendre parler.
C'est une bonne question. Pourquoi les gens veulent pas en entendre parler? En vrai, je sais pas trop, en fait, pourquoi ils veulent pas en entendre parler. Je pense qu'ils veulent pas en entendre parler, au fond, parce que c'est très courant, très banal, et que c'est ce que je raconte dans mon travail, et c'est ce que l'enquête a permis de montrer, qu'en fait, tout le monde a été socialisé dès l'enfance, dès l'école primaire, à vivre avec des gens qui ont vécu l'inceste.
Ne pas voir ces bibendums de silence, gavés de tous les mots qui ne sortiront jamais. Parce que si les silences étaient déchirés, si collectivement on décidait de reconnaître les petits garçons et les petites filles violés par leurs papas, leurs oncles, leurs grands-pères, par les patriarches de nos sociétés, si on décidait de les écouter, alors il faudrait accepter de constater que ça ne relève pas du fait divers. Ma mère, Dorothée, Tal, Daniela, Julie, Laure, ce ne sont pas des cas isolés.
l'ampleur du problème est démesurée. Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez Ou peut-être une nuit, une série du podcast Injustice de Louis Média, réalisée par Anna Bui. Dans le prochain épisode, on parlera de votre classe de CM2, celle dans laquelle en moyenne 2 à 3 enfants étaient victimes d'inceste. On parlera de chiffres, de tous ces chiffres qui disent l'immensité du problème et que le silence engloutit.
Toujours sur Radio Campus 90.8, sur l'émission L'Apérophonie que j'anime aujourd'hui avec Juliette, une des étudiantes Relais Égalité de l'Université Grenoble-Alpes. Venez d'écouter un extrait de l'épisode 2 de la série de podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski. Donc elle y affirme que tout le monde a été socialisé à vivre avec des gens qui ont vécu l'inceste. Et donc... que si les silences ils étaient déchirés et que si collectivement on reconnaissait ce problème et qu'on les écoutait, alors on serait forcé de constater que ça relève pas seulement du fait divers. Et donc on voit bien ici qu'il y a toute une construction du silence autour de l'inceste, et même si elle est aujourd'hui de moins en moins invisibilisée, ça reste encore un sujet très tabou. Et donc à ce propos, Eva, je voulais te demander, quand t'as créé ton... Enfin, on a déjà un peu... pu en parler avant, mais quand tu as créé ton association en 1985, c'était un sujet qui était encore plus emprisonné dans le silence qu'aujourd'hui. Comment est-ce que la création de cette association, elle a été reçue par la société et peut-être aussi par ton entourage ?
Alors, ce qui a permis que ce soit reçu, c'est l'émission des dossiers de l'écran le 2 septembre 1986, qui était vraiment une émission très très écoutée en France. Et avec, où on a parlé de ce problème-là, où j'ai parlé à visage découvert, alors que jusqu'à présent, on cachait les victimes. Et moi, il n'était pas question qu'on me cache, puisque j'avais créé une association, écrit un livre, et que je voulais qu'on en parle. Donc j'ai dit, moi, vous ne me cacherez pas, je vais dire ce qui s'est passé, mon histoire et tout ça. Et à partir de ce moment-là, les autres victimes aussi se sont mises à parler à visage découvert. Et ça a duré comme ça jusqu'en 1989. Et je pense que cette médiatisation par la télé a été vraiment importante. Mais ce qui s'est passé en 1989, je pense que c'est très important de le raconter. En fait, tout ce que j'avais fait était interdit par la loi. Parce qu'à cette époque-là, la loi a été faite de telle façon qu'on ne pouvait pas parler d'un crime prescrit, non jugé, en public. Donc, jusqu'à présent, ça s'était bien passé. Et sur une émission sur le plateau de télé de TF1, une émission médiation, on était 4 victimes à visage découvert. Et le père de Claudine, l'une d'entre nous, a porté plainte en diffamation. Et il y a eu un procès à Saint-Brieuc en 1989, en juin 1989, où tout était à l'envers, à savoir que... au banc des accusés, il y avait Claudine et François de Closé et TF1. Et qui défendait le procureur défendait le violeur. Et ça, donc moi j'y suis allée comme témoin officiel pour dire c'est parler ou mourir. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler, sinon les victimes se suicident. Et voilà, et j'ai dit ça. Et ils ont été condamnés. Et donc, heureusement, les socialistes à l'époque étaient au pouvoir et Frédéric Bredin avait déjà préparé un amendement qui reportait le temps de prescription, non pas à la date des faits, c'était 10 ans pour un crime, mais à la majorité des victimes. Et c'est la première fois donc que les victimes ont pu porter plainte de 18 à 28 ans. Et puis ça a été reporté à 20 ans après la majorité et encore à 30 ans après la majorité. Et en plus maintenant, il y a la prescription glissante depuis la loi de 2021 où c'est toutes celles qui peuvent, qui veulent, dire leur témoignage à la police, ces témoignages-là, ces plaintes-là ne sont pas classées. Elles sont classées impossibles à cause de la prescription, mais elles peuvent rester chez le procureur. Et si cet agresseur agresse quelqu'un de beaucoup plus jeune, pour lequel il n'y a pas de prescription, toutes les personnes qui étaient sous le coup de la prescription peuvent aussi être incluses dans la procédure. Donc c'est un vrai changement qui marque aussi le changement de la société qui commence enfin à comprendre que pour une victime d'inceste, il faut absolument un acte symbolique de la loi pour reconstruire la victime. Il y a un effet symbolique de la loi qui dit le vrai, le juste, et qui reconnaît ce qui s'est passé comme un crime, parce que ce n'est pas une maladie, l'inceste, c'est un problème de droit humain bafoué. Ça fait 35 ans, je le dis, et moi j'ai tenu bon parce que je suis restée là, campée dans le champ de la loi, en disant, c'est une question de droit humain, et vous devez le traiter comme ça. D'un côté, il y a un violeur, qui est l'agresseur violeur, qui est coupable et responsable de son crime, et de l'autre côté, un enfant, mineur la plupart du temps, qui n'est responsable ni coupable de rien. Il a subi un crime. Et il faut absolument parler aux victimes d'inceste avec les mots de la loi. Parce que comme ça, du coup, dans leur tête, ça devient clair qu'elles sont coupables de rien.
Merci. Et donc, pour revenir, comme vous avez dit, elles ne sont coupables de rien, pourtant, il y a vraiment une loi du silence qui s'inscrit dès leur plus jeune âge. Et cette loi, c'est pas seulement au niveau sociétal, comme ça a été le cas pendant longtemps, mais elle s'établit aussi dans la relation d'inceste entre la victime et l'agresseur, encore aujourd'hui. Et du coup, je voudrais poser une question à Zoé. comment est-ce que est-ce que il y a un silence qui s'est construit, et comment est-ce qu'il s'est construit?
Avant que j'en parle?
Oui.
Ok. Alors, moi, c'était vraiment... C'est assez bizarre, en fait. Il a vraiment instauré une manipulation, mais de fou malade. En fait, vu que c'était mon père, déjà... Moi, j'avais 7 ans, en fait. Donc, pour moi, c'était normal, tout ce qui se passait, déjà, de 1. Et, en fait, il commettait ses crimes sur moi et, du coup, aussi ma petite sœur, parce qu'on était deux. Et juste après, en fait, il m'emmenait faire des activités, vraiment des trucs de fou. Il m'achetait plein de cadeaux et tout. Et du coup, en fait, moi, dans mon cerveau d'enfant, ça a instauré en même temps de la joie. Et en même temps, j'étais en mode, mais c'est bizarre quand même. Enfin, je comprends pas, je suis mal à l'aise et tout. Et du coup, en fait, ça a instauré automatiquement un silence. Parce qu'en fait, j'étais vraiment très gênée. Alors que j'avais que 7 ans, mais j'étais vraiment très gênée, mais je comprenais pas pourquoi. Et en même temps, j'avais peur parce que il était violent avec moi, ma sœur, mon frère, surtout mon frère. Et j'étais aussi terrorisée de ça, en fait. Et il y a eu une fois où j'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit « Maman, c'est bizarre, enfin, papa, il veut vraiment que je dorme tout le temps avec lui. » Et je me rappelle pas trop de sa réaction, enfin... Parce que c'est encore trop lointain, et puis il y a eu tellement de fois que j'arriverai pas à me rappeler, mais je sais que j'étais au téléphone avec elle encore hier soir, et elle était vraiment sous le choc d'apprendre ça, quoi, parce que c'est pas normal. Et je me rappelle à peu près un peu de sa tête, et puis même mon frère, mon petit frère, qui a 2 ans de moins que moi, qui me disait « Mais c'est bizarre, tu dors tout le temps avec papa et tout. » Et ça a automatiquement instauré de la peur en moi. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde me dit que c'est bizarre et tout? Enfin, je comprends pas. Et du coup, pendant très longtemps, j'en ai pas parlé et je laissais faire. Et il y a aussi le fait que je le voyais très peu, mon père. Et j'étais extrêmement attachée à lui en même temps. Et du coup, il m'avait un peu lavé le cerveau, quoi. Enfin, qu'un peu même. Et ensuite, c'est après, quand on a déménagé vers les Alpes, ma mère a rencontré quelqu'un. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'il ne réagissait pas du tout comme mon père, du coup. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment à me poser des questions et que j'ai vraiment commencé à encore plus avoir peur d'aller chez mon père. Parce que je me suis dit, mais pourquoi mon beau-père, il ne me fait pas ça? Enfin, il est gentil avec moi, je ne sais pas qui n'est pas normal, du coup. Et c'est au collège, en sixième, il y a eu des infirmières qui sont venues en classe pour nous parler du viol. Et c'est à ce moment-là, en fait, que du coup, moi, toute seule, au fond de la classe, genre, j'entends ça et j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? C'est littéralement ce que je vis avec mon père, du coup. Et du coup, j'apprends et je comprends que c'est pas normal et que c'est un crime. Et donc, là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Enfin, puis en plus, à cette période-là, il y avait le début de la puberté, etc. Donc, vraiment, pour moi, dans ma petite tête, j'étais bouleversée. Enfin, et du coup, jusqu'en seconde, de mes 7 ans jusqu'à mes 15-16 ans, j'ai pas parlé. Vraiment, je suis restée dans le silence et je continuais de vivre ce que je vivais. Et sans savoir que du coup, ma sœur la vivait aussi, parce que j'étais persuadée que j'étais toute seule. Et quand en fait, j'ai compris que c'était ce que je vivais, que je vivais du viol, j'ai été extrêmement protectrice avec ma sœur et mon frère. Et du coup, pour moi, dans ma tête, il leur arrivait rien, enfin, surtout à ma sœur, du coup. Parce que bon, je l'espère encore aujourd'hui que mon frère n'a rien eu. Ma sœur a pris la parole. Et du coup, pendant longtemps, je l'ai extrêmement protégée quand on était chez mon père. Et un an après que j'ai porté plainte, donc c'était en 2020 que j'ai porté plainte, donc en 2021, ma sœur a porté plainte. J'ai fait une descente d'organes littéralement. Enfin, du coup, il y a eu un système qui s'est instauré dans ma tête. Enfin, j'étais persuadée que tout était de ma faute, etc. Enfin, voilà. Et elle, du coup, ça s'est passé, elle avait 4 ans. Et jusqu'en 2021, elle n'a pas parlé. Donc, et là, actuellement, elle fait sa rentrée en seconde. Donc, il y a vraiment une loi de silence énorme. Énorme. Même si ma maman, elle a toujours été là en me posant des questions, parce qu'elle avait des doutes. Elle me demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait, papa? Et tout ça. Et moi, je répondais pas. Enfin, juste, j'étais terrorisée. Parce que, en fait, en même temps, ça me dégoûtait de moi-même alors que j'avais rien fait. Et j'étais juste terrorisée. J'arrivais pas à parler. Ça me foutait la gerbe. Enfin, c'est. Je saurais pas comment expliquer l'autre. Enfin, c'est insupportable. Juste le fait d'en parler pour la première fois, c'était horrible.
Il n'y a pas de doute, enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais je veux dire que c'est acté, on va dire qu'il y a vraiment une loi du silence qui se met en place. Et du coup, pour une question pour l'association, donc pour Cécile, par quelle stratégie est-ce que les auteurs construisent ce silence, enfin, est-ce qu'avec les victimes, vous en avez parlé, est-ce qu'elles vous ont déjà dit, est-ce qu'elles arrivent à savoir comment est-ce que ce silence se construit, et est-ce que c'est par rapport à un rapport d'autorité avec l'agresseur, ou est-ce que c'est les victimes qui se renferment sur elles-mêmes, est-ce qu'il y a une loi générale, entre guillemets, est-ce que c'est, enfin, voilà.
Je pense qu'il y a plusieurs niveaux, il y a le niveau de la famille. L'agresseur souvent instaure une forme d'emprise avec l'exercice de la violence, avec une forme de je te fais du mal mais je te récompense, je te manipule, c'est parce que je t'aime. On entend toutes ces choses-là tout le temps. Donc chez un enfant il n'a pas le recul nécessaire pour, tu l'as très bien expliqué à l'instant, un enfant ça le plonge dans une confusion extrême. Avec des sentiments de culpabilité, de dégoût de soi, tout ça c'est terrible et l'enfant est très seul avec tout ça. Et en fait, inconsciemment, l'enfant comprend qu'il ne peut pas en parler parce que c'est bizarre, mais c'est pas. Elle l'a parfaitement expliqué, Zoé. l'enfant ne peut pas savoir, lui, tout seul, en quoi c'est bizarre, en quoi c'est pas normal, et surtout qu'il n'est pas coupable et qu'il y a un crime qui est commis, dont lui, il est la victime. Donc, le premier degré, niveau de silence, il est à l'intérieur de la famille. Et puis après, il y a le silence de toute la société complice, parce que finalement, ça arrange personne de savoir qu'il y a autant d'agresseurs d'enfants dans notre société. C'est quand même très gênant, très embêtant, et on préférerait ne pas le savoir. Donc, heureusement, il y a des victimes... aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont, à l'instar d'Eva, hein, qui a été la première, et puis aujourd'hui, on te voit toi, et en fait, on voit cette force, ce courage de parler, et c'est ça qui va changer la donne, c'est ça qui va changer la société, parce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on ne les entend pas, les victimes. On est là, on est à la radio, on est en train de parler de ça. Donc, en fait, c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Mais voilà.
Eva, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, je voulais rajouter le fait qu'on aime son père, c'est-à-dire qu'on est dans une relation d'amour aussi, et qui s'est construite depuis la naissance. Et en fait, un enfant, il est complètement, c'est un dominé absolu, et il est complètement accroché à ses cultures, à ses deux parents qui sont ses références, etc. Et il est dans une situation... de vie et de mort, parce que si on n'est pas aimé par ses parents, si on n'est pas soigné par eux, etc., on est en danger. Et cette situation de survie, en fait, moi j'appelle ça une situation de survie, fait qu'on ne peut pas parler, on ne peut même pas penser. C'est ce que Zoé dit très très bien, on est dans la confusion, on ne peut même pas penser ce qui arrive. Et c'est pour ça que moi, depuis que j'ai commencé à parler, et depuis, je dis et je répète, il faut apprendre aux enfants les droits de l'enfant, depuis la maternelle, pour leur dire qu'ils ont des droits d'être respectés, de se faire respecter. On n'a pas le droit de les toucher de telle et telle façon. Et ça, ça peut s'apprendre dès la maternelle. De la maternelle jusqu'en terminale, il faut des affiches sur les droits de l'enfant, pour que les enfants soient au courant de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal.
Merci beaucoup. Pour Charlotte Pudlowski, donc dans le podcast qu'on a écouté juste avant, l'entourage de la victime sont, comme elle, selon ses mots, les gardiens d'un temple du non-dit. Qui veut prendre la parole, mais qu'est-ce que vous évoque ce terme ? Est-ce qu'il vous paraît approprié pour désigner la famille de la victime ?
Tu peux redire
l'expression, c'est ouais. Donc elle qualifie l'entourage, ouais. Donc la famille ou les amis aussi, hein, comme les gardiens d'un temple du non-dit. Donc on voulait demander, oui, qu'est-ce que vous évoque ce terme et est-ce qu'il vous paraît approprié, comme elle l'a dit Juliette, pour désigner l'entourage ? Mais c'est à qui veut répondre ?
Franchement, ouais. Bon, je pense automatiquement à ma mère. Parce qu'elle m'a jamais... Et encore aujourd'hui, enfin même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal des fois à prendre la parole. Et ouais, ça me rappelle juste le fait qu'elle est toujours derrière moi... à justement me pousser à prendre cette parole et briser ce silence. Et elle le fait aussi actuellement énormément avec ma sœur, qui est en plein du coup dans la période que j'ai traversée en seconde. Elle a assez honte d'en parler. Puis elle est jeune, très très jeune. Et ouais, en fait, je pense directement à ma maman du coup. Parce qu'après, enfin, y a les autres personnes de ma famille, mais je les vois très peu. Et ils sont pas en plein... en plein dans le truc qu'on traverse. Après, ils sont très en soutien avec moi et avec ma sœur, moi et mon frère. Mais c'est surtout ma mère qui nous a jamais lâchés et qui a toujours fait en sorte de briser ce silence avec nous.
Et en parlant de ta maman, quand ce silence a été brisé, est-ce que ça a aussi changé ton rapport avec elle ?
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, du coup, quand je parlais pas, j'étais très agressive. Mais surtout quand j'ai compris ce que je vivais, j'ai commencé à devenir extrêmement agressive, mais pas qu'avec ma mère. Enfin, j'étais agressive avec ma sœur, avec mon frère, avec tout le monde. On se battait souvent. Moi, j'insultais ma mère. Enfin, c'était insupportable. Et en fait, déjà, le fait d'avoir libéré cette parole, bah, ça a déjà permis à ma mère de comprendre ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Et puis pareil avec du coup avec mes frères et sœurs, bah bon, même si je pense que c'est eux les premiers qui avaient des doutes, ça nous a vraiment rapprochés, mais de ouf, genre vraiment. Et bon, c'est cool du coup, mais enfin ça fait mal un peu en même temps, quoi. Voilà.
Ouais, je pourrais ajouter que quand on est avec dans une parole de vérité autour de ça, avec les frères et sœurs, la mère, etc., à la fois ça crée des nouveaux liens qui sont des liens vraiment, ceux-là on ne pourra pas nous les arracher, quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord, Zoé, mais c'est ça. Ça crée une autre forme de lien très puissant, et des vrais liens de famille, quoi. Ça, en fait, ça devrait être comme ça, la famille. Mais pour que... Enfin, moi, je l'ai vu avec mes frères et sœurs, puisque j'ai une longue histoire avec cette histoire-là. Et le fait que tout le monde dans ma famille ait lu mon livre, que tout soit clair, j'ai pu retourner chez mes parents, j'ai pu avoir une vraie relation avec eux. Et du coup, il y a une vraie relation entre tous les frères et sœurs. Maintenant que mes parents sont disparus, on a des vrais liens. Mais dans la vérité des faits, dans ce qui s'est passé. Et voilà, on a le même père, on a vécu des choses différentes, et on a aussi le droit d'aimer le bon père qu'on a eu. C'est ça la difficulté, c'est qu'il y a des moments où on a très envie d'être en colère, et c'est normal et c'est même indispensable. Et puis d'autres moments où on a besoin de ressentir de la tendresse aussi. C'est ça qui est très compliqué à gérer pour les victimes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile.
Oui, moi je voudrais abonder aussi dans la relation, ce que ça crée au niveau de la relation à l'intérieur d'une famille. Je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui ont très peur de parler, qui s'empêchent de parler, parce qu'elles ont peur du mal que ça va faire dans leur famille. Et ça, je crois que toutes les victimes le décrivent. C'est comme si on avait une grenade dégoupillée dans la main, et si on parle, la grenade va exploser et toute la famille va être déchiquetée. Et il y a beaucoup de personnes que ça empêche. Et là, moi, j'aimerais dire que oui, ça va faire effectivement un raz-de-marée, ça va secouer tout le monde, ça va avoir des conséquences énormes. Mais la première conséquence et la plus importante, c'est effectivement que tout le monde va être remis dans la vérité. Et en ce qui concerne la maman en particulier, je pense que, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu avec la mienne, pendant des décennies, j'ai eu l'impression que je la protégeais et que j'évitais de lui faire du mal en parlant pas. Et puis en fait, le jour où je lui ai parlé, je me suis rendu compte que j'avais une maman tellement super. Elle est rentrée en action d'une manière, avec une intelligence, un courage qui était extraordinaire. Et je pense que ce jour-là, en fait, je lui ai rendu la possibilité d'être ma maman, d'agir en tant que maman. Je lui ai rendu, en fait, sa force de maman, de pouvoir... Donc, en fait, il ne faut pas se priver de ça. Oui, ça va faire mal. Évidemment que ça lui va faire mal fou. Mais je pense que ça lui aurait fait encore plus de mal de réaliser un jour qu'elle ne m'a pas protégée et qu'on ne lui a jamais permis de faire ce qu'elle a fait pour me protéger et pour faire une sorte de justice à l'intérieur de la famille. Et ça, faut pas le sous-estimer. Je pense que c'est important de le dire aux personnes qui sont encore toutes seules, qui se sentent seules, qui ont très très peur de parler. C'est pour ça qu'on le dit, c'est pour leur dire oui, ça va brasser tout le monde, c'est sûr, ça va avoir des conséquences, c'est sûr, mais vous allez aussi vous retrouver dans la vérité avec les personnes qui vous aiment et potentiellement une maman. Souvent, on parle de la maman qui protège ses enfants. En fait, vous allez la remettre dans sa place de maman et elle va s'en saisir de cette place.
Donc oui, on voit bien que c'est très dur d'en parler, mais qu'une fois qu'on le fait, finalement, c'est ça qui libère le plus. Mais donc parfois, en tant que parent, on peut aussi être confronté à la vérité, mais pas forcément vouloir l'entendre ou ne pas réussir à l'entendre. Et on voit très bien cette situation dans un extrait du film Police que je vous laisse tout de suite écouter.
À tout à l'heure.
Je vais aller en pension avec Clémence.
Ah bon? Mais c'est nouveau ça, de vouloir en pension. Tu veux aller en pension avec Clémence, pourquoi?
Parce que papa, il m'aime trop.
Mais non, mais tous les papas aiment trop leur petite fille. C'est quoi cette histoire?
On est dans le film Police de Mai Wen, plongé dans le quotidien d'une brigade de protection des mineurs.
Quoi? Qu'est-ce que tu me dis ?
Il y a cette scène avec cette petite fille dans la cuisine et sa mère penchée sur elle, de toute sa hauteur de maman, et dont le regard terrorisé traduit le mot amour. Il y a ce mythe qui persiste. L'inceste, ça pourrait être de l'amour. De l'amour mal dirigé, mal exprimé, mal orienté, trop névrosé, trop. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre avec l'inceste. Ce n'est jamais une histoire d'amour. C'est une histoire de domination. Une pièce des dominos de la violence.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8. Nous sommes donc toujours avec Eva Thomas, la fondatrice de l'association SOS Inceste pour Revivre, Cécile Desmoulins, pardon, l'actuelle présidente, et Zoé Fromey, qui donc a été victime d'inceste. Vous venez d'écouter l'extrait du film Police réalisé par Mai Wen, qu'on a tiré du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski. Donc ce moment, comme on vient de l'écouter, il montre une petite fille qui dit à sa mère que son papa l'aime trop et que sa mère lui répond que tous les papas aiment trop leur petite fille. Et donc c'est le moment de réalisation de la maman. Et donc ça illustre une réalité qui est celle du déni de l'entourage des victimes d'inceste lorsqu'elles tentent de se confier. Et la difficulté de l'entendre et de l'écouter, cette parole. Et donc, selon une enquête de la Civis, le déni, c'est une société de spectateurs. Et dans cette enquête, la Civis montre que lorsqu'elle révèle les violences au moment des faits, les victimes s'adressent le plus souvent à des membres de leur famille, mais elles n'obtiennent pas forcément le soutien social dont elles ont besoin, et c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément toujours protégées. Zoé, tu nous en as déjà bien parlé, mais pour te poser la question plus précisément, tu nous as dit que tu en avais parlé à ta maman, est-ce que quand tu en as parlé, pas que ta maman, mais peut-être les autres personnes à qui tu en as parlé, on a su t'écouter vraiment, et est-ce qu'on a su t'aider à ce moment-là, ou est-ce que ça a été plus une période sur dans le temps
Ah, c'est un peu compliqué. en vrai, je vais réussir à parler, ça a été quand même assez rapide parce qu'en fait, ma mère, elle a tout pris en main, direct. Enfin, elle a vraiment pas hésité une seconde à aller voir la police. Elle les a relancés pour vraiment que ça se lance rapidement. Et puis après, en fait, j'ai laissé elle faire les démarches parce que je me sentais pas d'appeler tout le reste de ma famille pour... leur dire que j'avais parlé de ça. Je sais que ça a été quand même un choc dans toute ma famille, du moins du côté de ma mère, parce que du coup, j'en avais pas parlé tout de suite du côté de mon père, évidemment. Mais c'est surtout elle, en fait, qui a fait toutes ces démarches-là, parce que moi, j'avais pas la force mentale de le faire. Et j'ai reçu, en fait, des messages de soutien de ma famille et tout ça, mais... c'est surtout ma mère qui a géré tout, en fait.
Et est-ce que, une question pour l'association, comment est-ce que se manifeste cette prise de conscience chez les victimes qui viennent vous voir ? Est-ce que c'est la même pour tout le monde ou est-ce qu'elle est différente selon les victimes ?
Elle est très différente selon les victimes. Il me semble qu'il y a un aspect générationnel qui rentre en compte. Parce qu'aujourd'hui, on en parle plus. Il y a plus d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Tu en as parlé tout à l'heure. Toi, c'est quelque chose qui t'a permis de comprendre, même si c'est encore pas assez répandu, c'est encore pas assez systématique. Il n'y a pas assez de moyens qui sont mis là-dessus. Mais au moins, il y a une tentative, il y en a un peu. Par contre, ça nous arrive d'avoir des appels de personnes de génération plus âgées que moi, des gens qui ont 60, 70 ans, 80 ans, qui appellent et qui parlent pour la première fois, et parfois qui ne sont pas sûrs. On a beaucoup d'appels de personnes qui disent « Oui, alors il y a telle personne de mon entourage qui me faisait ça et ça, mais je ne sais pas trop, j'avais l'impression que c'était un problème, mais est-ce que c'est un problème ?» Et on sent que cette confusion est encore là et qu'elles sont... prise dedans, et dans ces moments-là, nous, on les aide à poser les bons mots, à remettre le cadre du droit, comme disait Eva tout à l'heure, Il y a une personne victime, il y a une personne coupable. Et c'est très important au moment, qu'à un moment, on établisse bien ça. Il y a beaucoup de discours anti-victimaires là, dans la société. Hein, souvent on dit « Oh là là, les victimes ». Bon, en fait, c'est quand même hyper important qu'on n'est pas une victime pour toute la vie. Moi, j'ai pas une tête de victime là. Mais par contre, à un moment T, il y a une victime et il y a un agresseur. Et ça, c'est hyper important que ça soit très clair dans l'esprit de tout le monde. Et c'est une réalité. La victime, elle ne va pas être bloquée dans son statut de victime toute sa vie. On le voit bien. Hein, là, on a quand même trois personnes qui en ont fait quelque chose et dans l'action. Et on a plein de force. Et ce n'est pas du tout un problème de dire qu'à ce moment-là, on a été victime. Et quand on reçoit les appels des personnes, c'est important de positionner ça parce que parfois, elles n'ont pas encore pris conscience qu'elles avaient été agressées. Et qu'on leur avait fait quelque chose qui était interdit. Et le fait de pouvoir le poser avec les personnes, ça fait une grande différence pour elles.
Je crois que le déni qu'on se construit nous-mêmes par rapport à ce qu'on a vécu, surtout quand on parle, enfin moi je parle de cette génération-là, en fait, on se dit, mais peut-être que c'est pas si grave. Oui. On a un déni personnel de la réalité de ce qu'on a vécu. Et effectivement, il y a un passage obligé de se reconnaître soi-même victime pour pouvoir quitter cette place.
Oui.
Mais il faut traverser cette place. Il faut être reconnu par des gens extérieurs comme victime. Et les associations servent à ça, en fait. À poser les mots justes, à dire « vous avez été victime et vous allez vous en sortir ». Parce que vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie. Mais il y a un moment difficile pour les victimes de reconnaître ce moment-là où elles ont été victimes.
Et donc on voit bien dans ce parcours qu'il y a tout un tas de reconnaissances d'abord personnelles, mais ensuite aussi la reconnaissance sociétale, et enfin arrive aussi la reconnaissance légale, elles sont toutes très compliquées, mais parce que oui, il y a guérir psychologiquement, mais aussi faire justice, et c'est aussi ce qui peut aider évidemment à guérir psychologiquement. Toutes ces reconnaissances sont évidemment liées, mais cela questionne aussi le rôle de la justice et comment elle participe là-dedans. Donc, quels sont aujourd'hui les mécanismes de signalement et d'accompagnement qui sont mis en place juridiquement ?
Alors, moi j'ai participé au travail de la CIVIS pendant 2 ans, et notre travail c'était d'écouter les victimes dans les villes. De recueillir plein de témoignages, on en a eu 30 000, mais aussi de pointer tout ce qui dysfonctionnait dans les différents ministères pour c'était la non-protection des enfants qui fonctionnait plutôt que la protection des enfants. Et évidemment, ça a été un travail, on a fait un bilan de 750 pages, parce que c'est très complexe et les enjeux dans les différentes rouages de la société qui gèrent ces histoires de protection de l'enfance, en fait, on voit bien que c'est très complexe, très compliqué pour tout le monde, que les gens n'ont pas été formés, les travailleurs sociaux, les psys, les infirmiers, etc. Ils ont été formés dans le déni. Ils n'ont pas eu une formation sur la réalité de ce qui se passait. Donc il y a un besoin de formation énorme, aussi bien pour les magistrats, pour les travailleurs sociaux, pour les psys.
Les policiers,
oui, les gendarmes, etc. Tout le monde a besoin d'être formé avec la réalité de ce qui se passe, avec tout ce qu'on voit sous nos yeux maintenant. Les statistiques catastrophiques, 160 000 enfants agressés par an, et 6 millions de Français qui ont vécu ça dans leur enfance. Donc là, maintenant, on a constaté que c'est ça le réel. C'est ça le réel de notre société. Donc il faut travailler avec ça. Et il y a un grand bouleversement qui doit se passer. Et c'est c'est le travail qu'a fait la CIVIS, c'est de montrer tout ça.
Et donc on voit encore qu'il y a un grand travail d'écoute à faire et de formation de tous. Et donc l'émission va bientôt se terminer. Donc, on voulait encore vous demander avec Juliette, je ne sais pas si c'était ta question Juliette, donc peut-être tu peux...
Comment est-ce qu'on peut continuer à briser le silence et quelles évolutions la société doit-elle encore franchir pour accepter entièrement la parole des victimes ?
Je crois qu'on est en bonne... on est bien en train de... On est tout un groupe.
Oui.
Dans plein d'endroits de France, il y a des gens qui font des communications, il y a des formations qui se font. Suite à l'éviction de Édouard Durand de la Civise, on a été 12 à protester en démissionnant. Et ces personnes-là continuent de travailler. On est complètement animés par cette recherche, ce travail qu'on a fait ensemble. Et je pense que toutes les victimes qui ont pu parler de leur histoire dans le cadre qu'avait mis la Civise, où ils étaient protégés, on ne pouvait pas les attaquer en diffamation. Du coup, c'était une vraie parole qui remettait debout. Et parce qu'on a besoin de rejoindre la société avec cette histoire-là, et bien, toutes ces personnes, elles continuent de parler. Donc, il y a eu un gros travail qui va continuer dans la société.
Oui, donc ce travail qui est bien entamé, mais qui doit encore beaucoup continuer. Et une dernière question pour finir l'émission, très, très factuelle, mais que faire si on est victime d'inceste ? À qui s'adresser concrètement ? Comme vous voulez.
Tu veux parler, Zoé ?
Après, moi, c'est de mon expérience personnelle. Donc après, je ne sais pas si tout le monde... Enfin, je ne veux pas le conseiller non plus à tout le monde parce que je sais que c'est super dur. Mais moi, j'en parlerai... Enfin, si ça se passe bien... dans la famille, automatiquement, ça serait la mère, parce que du coup, c'est celle qui sera confrontée en premier à tous les problèmes à régler avec la justice et tout ça. Et je sais qu'en fait, aussi, quand j'étais au collège, j'en avais parlé, entre guillemets, c'était très vague à mes meilleurs amis, parce qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand j'allais chez mon père et tout. Mais je pense que déjà, le fait de faire le pas, d'en parler à quelqu'un de sa famille en qui on a confiance, premièrement, ou même à son frère, à sa sœur, tout dépend de la famille. Je pense que déjà, ça libère de beaucoup de poids. Et puis aussi le fait que... j'ai eu un très bon psy. Et ça aussi, ça m'a énormément aidée.
Moi, je dirais la même chose. On peut parler à un proche en qui on a confiance dans sa famille. On peut parler à une association. On peut appeler le 119. On peut aller déposer plainte dans un commissariat où il y a une brigade de protection des mineurs, où il y a des personnes qui sont formées pour recevoir ces plaintes d'une manière qui ne soit pas blessante, en fait, pour la victime. Tu as une autre idée à dire ? Voilà.
Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations et pour ces échanges précieux. Merci de nous avoir accordé du temps, Zoé, Eva et Cécile. Et on remercie aujourd'hui Oscar et Claire Lee qui étaient à la technique.
Merci beaucoup.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !